ma conférence s'intitule « Les anarchistes individualistes et l'éducation, conception pédagogique et dispositif autodidacte ». Alors d'abord, l'idée c'est de se transformer soi, de partir de l'individu pour transformer le monde. Donc au sein du mouvement anarchiste qui, il faut le rappeler, en France représentait une composante très forte, sinon majeur du mouvement ouvrier français. Le mouvement ouvrier français, à la fin du 19e siècle et dans les premières années du 20e, est anarchiste en grande majorité. C'est une composante qui rivalise avec la composante marxiste, qu'on appelle collectiviste à l'époque, et qui est très très forte. Hein. C'est pas du tout marginal, c'est pas 10% des effectifs du mouvement ouvrier, c'est plus de 50%. Du reste en Espagne et en Italie aussi. Eh bien, au sein de ce mouvement anarchiste français, on peut distinguer trois grands courants à la fin du 19e siècle ou dans les premières années du 20e. Alors, il y a d'abord très puissant le courant anarcho-syndicaliste qui pense parvenir à une société sans classe et sans État. Le but est le même pour tout le mouvement ouvrier, d'ailleurs marxiste ou non marxiste, hein. C'est parvenir à une société sans classe et sans État. Alors, les anarcho-syndicalistes, eux, veulent y parvenir au moyen de la grève générale. La grève générale, ce sera s'approprier directement les moyens de production et puis à partir de là, faire produire, faire circuler les marchandises, les répartir, etc. Ils font l'économie d'une révolution. C'est la grève générale qui conduira à la société sans classe. Et c'est dans les premières années du XXe siècle, hein, disons entre 1905 et presque 1914, je dois rappeler qu'il y a plus de 1000 grèves par an, à peu près 500 000 personnes en grève par an, avec des durées moyennes de 2 semaines. Et il y a des morts. La Troisième République, en 1905, est très à gauche, mais elle sabre comme il faut les ouvriers. Et quand je dis sabrer, il y a vraiment une grande proportion de mutilés dans les manifestations émeutes de ces années-là. Donc il y a le courant anarcho-syndicaliste. Il y a le courant révolutionnaire qui, lui, pense parvenir toujours à cette société sans classe et sans État au moyen d'une insurrection et qui donc croit à l'action des minorités agissantes au sein des masses. Ils sont aussi proches un peu des blanquistes en fait. Et puis il y a un autre courant, celui qui m'a le plus intéressé, sur lequel j'ai travaillé, c'est le courant individualiste qui apparaît assez tard à la fin des années 1890 et qui, lui, affirme qu'il n'est pas possible de transformer la société sans d'abord transformer les hommes. C'est pas la nouvelle société qui fera des hommes nouveaux, ce sont des hommes nouveaux qui feront la nouvelle société. Donc ils sont convaincus, justement, qu'un changement de société qui procéderait brutalement d'une révolution ou d'une insurrection ou même d'une grève générale qui réussirait n'aurait pas d'effet positif s'il n'y avait pas avant eu une évolution des mentalités. Donc la capacité à bâtir un monde plus solidaire, plus libre, elle dépend d'abord d'une éducation auquel les masses ouvrières n'ont pas eu accès et même l'école obligatoire laïque publique créée par Jules Ferry depuis 1886 n'avait pas donné aux masses ouvrières cette éducation. D'autre part, une révolution, ils sont quand même pas très loin de la Commune de Paris, hein, ça fait quelques dizaines d'années à peine, enfin 30 ans même. Il y a bien eu une révolution assez prometteuse, elle a été écrasée dans le sang. Il y a cette idée aussi que ce n'est pas une bonne manière de procéder. Et d'autre part, probablement cette révolution, elle ne va pas advenir parce que justement les hommes sont trop résignés, ont un niveau de conscience trop bas, un niveau de combativité trop bas. Et dans l'état actuel des choses, disent-ils, si une révolution advenait, ce serait vraiment l'œuvre d'une toute petite minorité, les fameuses minorités agissantes des anarcho-syndicalistes. Et dans ce cas-là, une révolution faite par une minorité, eh bien, elle débouche forcément pour les individualistes sur une société autoritaire. Parce que justement, cette minorité va prendre le pouvoir et ces travailleurs victorieux, mais qui n'ont pas été éduqués à la liberté, vont retourner dans leur état de passivité antérieure. Ils vont être animés au moment de l'insurrection ou de la grève générale. Ils vont effectivement reprendre vie, s'animer, mais ils vont retomber dans l'apathie. Tant leur niveau d'éducation est bas, et donc non éduqués à la liberté, bah, ils vont se retrouver, là je prends les termes d'un d'entre eux, je devrais dire, c'est le grand théoricien du mouvement individualiste, il s'appelle Armand, il est assez malicieux dans sa manière de présenter les choses, et voilà ce qu'il dit, eh bien la masse retomberait sous la coupe, j'ouvre les guillemets, d'une masse de sous-administrateurs, surveillants, gendarmes et statisticiens, policiers de toute espèce, qui, nouveaux privilégiés vivront du produit du travail des autres. Un peu ce qui s'est passé avec la Révolution russe quelques années plus tard. Donc ça, il l'écrit en 1905. Donc la tâche première, par conséquent, des anarchistes, pour les individualistes qui sont des anarchistes, hein, c'est de travailler à la transformation des mentalités, et c'est cette transformation des mentalités qui parviendra à transformer le milieu social. Donc un perfectionnement individuel qui revient à, j'ouvre les guillemets, à nouveau, faire la révolution soi-même déjà, se délivrer des préjugés, former des individualités conscientes, voilà le travail de l'anarchie. Et il faut dire que cette émancipation individuelle qu'il prône, c'est pas seulement d'ailleurs le moyen de parvenir à une meilleure société, une société harmonieuse, c'est presque une fin en soi-même, parce que ils sont pressés, ils sont jeunes, ils ont à peine 20 ans, ils en ont déjà bavé, ils sont sur le marché du travail depuis l'âge de 12-13 ans, et ils ne veulent pas travailler pour leurs arrière-petits-neveux. La société harmonieuse, ils la veulent tout de suite à leur niveau, et ils veulent déjà s'émanciper. Donc, l'émancipation individuelle, elle a une valeur propre, en dehors même de cette marche vers la société harmonieuse. Donc ils sont, je l'ai dit, ouvriers dans leur grande majorité, sans diplôme, sans avenir social, et ils refusent une condition qui implique l'étouffement d'une grande partie de leur potentialité. Ils ne veulent contraindre, ils le disent, ni leur corps, ni leur esprit, et ils veulent développer jusqu'à l'extrême toutes leurs aptitudes sur tous les plans, c'est-à-dire tout compte pour eux. Ils veulent se développer sur le plan physique, ils font d'ailleurs de la gymnastique, du sport, c'est assez impressionnant toutes les activités physiques auxquelles ils se livrent, sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, beaucoup prisent la musique d'ailleurs, et ont, dans les difficiles conditions de l'époque, des connaissances musicales assez impressionnantes et un véritable intérêt pour la musique. Je dirais après d'ailleurs comment on le sait ça, c'est à travers des textes, des confessions qu'ils ont livrées. Sur le plan émotionnel aussi, et sensuel, sexuel, il faut développer toutes les capacités qui sont en nous. Donc c'est, et je reprends là l'expression d'Armand qui définit l'individualisme, il faut sculpter son moi, tout est dit là, sculpter son moi. Un autre de leurs théoriciens dit « Vive dès aujourd'hui de façon belle et intense, goûter à toutes les joies physiques, sentimentales, intellectuelles. » Alors évidemment, pour satisfaire à cette exigence, dans les conditions de l'époque, il faut d'une certaine manière échapper au salariat. Essayer de limiter le temps de travail, parce que bon, les journées, c'est 10 heures, parfois 12. En moyenne, on va dire que c'est 10 heures. Le dimanche, la loi sur le repos obligatoire, elle a été votée seulement en 1906. Il faut dire qu'en 1908, il y a encore des grèves pour que cette loi soit appliquée, parce que pas mal d'employeurs n'en tenaient pas compte. Donc c'est vraiment une vie qui ne permet pas ce merveilleux programme. Comment sculpter son moi en travaillant 12 heures par jour pour un patron dans des conditions d'insalubrité, de fatigue extrême. Donc du coup, ils essayent d'échapper au salariat. Leur but, c'est pas travailler plus pour gagner plus, mais travailler moins pour s'épanouir. Donc ils vivent collectivement, ces individualistes farouches, eh bien, paradoxalement, vivent en communauté, souvent. En tout cas, c'est dans ce courant qu'on a vu le développement de communautés de vie. S'associer, ça permet de réduire les dépenses, vivre en camaraderie, comme ils disent. Et les communautés s'appellent alors des milieux libres. Collectif de travail, pour ceux qui le peuvent, parce qu'il y a pas mal d'artisans dans ce milieu. Quand je dis ouvriers, c'est pas non plus les ouvriers de la grande industrie. La plupart, bon, de toute façon, ça représente le prolétariat français de l'époque, pour beaucoup, ils sont à la frontière de l'artisanat et du travail industriel. Donc, pour certains corps de métier, c'est possible de s'associer. Par exemple, les menuisiers, les petits métallos, ils forment des collectifs de travail, les travailleurs du cuir. Ils essayent aussi donc de s'installer comme artisans. J'ai vu pas mal de garagistes qui ont essayé de créer des collectifs pour travailler comme garagistes. Ça marche pas. Alors ils s'installent à leur compte comme artisans ou à deux. Commerçants pour certains. Il y en a plusieurs qui vont tenir des magasins notamment de vêtements de deuxième main, de choses comme ça. Je ne parle pas des libraires, il y en a aussi, mais ça c'est un peu à part et c'est ceux qu'on fait un petit peu plus d'études. Et puis ceux qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas du tout de capital à investir, se font camelot. Hein. Camelot, vous allez au bon marché à l'époque, qui était vraiment bon marché, vous achetez des coupons de tissu, des articles de mercerie, et puis avec la petite carriole, vous faites les marchés. C'est dur, on gagne peu, mais c'est le sentiment d'une liberté aussi. Hein. C'est très très important pour eux. Ils essaient aussi d'éliminer tous les besoins qui ne contribuent pas au bien-être du corps et de l'esprit, qui sont donc non seulement ce qu'ils appellent les faux besoins, ce qui est peut-être un peu naïf, qu'on peut trouver naïf aujourd'hui. Ça veut dire tout ce qui n'est pas strictement nécessaire et qui en plus fait du mal au corps. Alors le tabac, l'alcool, mais même ils proscrivent le thé, le café, la viande, bien sûr, c'est la viande est chère et on peut s'en passer. Alors ils sont beaucoup intéressés à l'alimentation, au régime alimentaire. Les vêtements qui sont coûteux et non hygiéniques, donc être pieds nus dans des sandales, pour les femmes se passer de corsets, en même temps le corps respire et puis ça coûte moins cher, on fait les habits soi-même, etc. Donc alors c'est pas non plus, mais faut pas du tout les voir comme des moines soldats. Ils jouissent de la vie, ils aiment l'amour, ils le font, ils pratiquent l'amour libre, c'est pas du tout empreint d'une grande tristesse. Leur alimentation, ils la négligent pas, ils cuisinent justement quand ils mangent pas de viande, ils essayent de faire de savants mélanges de fruits, de légumes, et surtout ils aiment le plein air, donc ils organisent plein de balades en dehors de Paris. Bon ça c'est un peu tout le mouvement anarchiste, mais eux vont le faire encore plus. Donc, dès qu'ils le peuvent, ils sortent de Paris, ils prennent des trains. C'est le moment où les lignes de train vont un petit peu partout. Et puis, à l'époque, vous êtes très très vite dans les bois, à Meudon, à Saint-Germain. Et ils font des grandes balades. Et les rendez-vous sont fixés à 8h le matin, gare Saint-Lazare, par exemple, gare d'Orsay. Hop, ils partent toute la journée, ils sont dans les bois. En même temps, ils font de la propagande un petit peu autour d'eux. Et puis, l'été, ils ont squatté, je mets des guillemets à squatter, mais... C'est une assez fabuleuse aventure. La plage de Châtelaillon, qui était une jolie petite station balnéaire entre Rochefort et La Rochelle, où la bourgeoisie rochelaise s'est installée. Eux, ils vont coloniser absolument cette station balnéaire, en dormant sur la plage, se baignant tout nu, enfin pourrissant tellement la vie des bourgeois que le casino va fermer, les bourgeois vont s'enfuir, et eux se retrouvent là tous les étés, avec des enfants, parce que bon, certains ont des enfants. Donc un mode de vie d'une extrême sobriété, et c'est toujours ça, la restriction de la consommation pour eux est toujours préférable à la restriction du temps non contraint, du temps libre. Et bien sûr, je dois dire que ça n'a pas été réalisable pour tout le monde, c'est-à-dire même en appliquant ces préceptes, eh bien l'argent manquait quand même souvent, et ils pratiquaient l'illégalisme, ils n'avaient aucune réserve par rapport à ça. Alors évidemment, il y avait un illégalisme un peu à la petite semaine, illégalisme soft, un peu de chapardage dans les magasins, un peu de vol, la fausse monnaie. La fausse monnaie était très répandue de toute façon à l'époque. Hein, c'était une forte partie de la délinquance, la fausse monnaie, et ça touchait le milieu ouvrier. Donc eux sont facilement faux monnayeurs, où écoule la fausse monnaie. Déménagement à la cloche de bois, on ne paie pas son terme et on déménage à la cloche de bois, du coup on ne paie pas de loyer. Bon. Et certains vont pousser bien plus avant dans cette voie, jusqu'au hold-up sanglant, ce sera la fameuse aventure, j'en toucherai deux mots, de la bande à Bono, qui n'était pas une bande et qui n'était surtout pas sous la coupe de Bono, qui est le chef créé par les médias de l'époque. Alors le bilan du mouvement, on l'a un petit peu en 1974, plus de 50 ans après l'apogée de ce mouvement, puisque l'apogée du mouvement individualiste, c'est entre 1905 et 1910, je dirais, jusqu'à l'épisode des bandits tragiques. Et en 1974, il y a un des membres importants de ce mouvement, qui s'appelle Mauritius, qui écrit dans ce journal L'Anarchie, qui le dirige assez longtemps et qui est aussi un petit peu plus instruit que les autres. Mauritius, qui a confié ses mémoires oralement à un militant qui s'appelle Paul-Valentin Berthier, hein, qui a recueilli ses mémoires. Paul-Valentin Berthier est mort il y a 2-3 ans, à l'âge de 100 ans d'ailleurs. Les anarchistes ont une belle longévité, due entre autres à leur sobriété. Eh bien, voici ce qu'il déclarait. Donc, il fait le point, hein, ce Mauritius, il est âgé de 80 ans. Voici ce qu'il dit. « Nous étions individualistes au sens où l'individu était pour nous la base de toute société, que la vie en société ne pouvait avoir de raison d'être que de diminuer l'effort de l'homme et de mieux permettre l'épanouissement de la personnalité. » Et que, dès aujourd'hui, et c'était là l'originalité de notre mouvement, dès aujourd'hui, l'anarchiste perfectionne cette personnalité dans tous les domaines, physique, intellectuel, moral, qu'il se libère de ses tyrans intérieurs, selon l'expression d'Ibsen, préjugés, éducation bourgeoise et religieuse, habitudes, etc., comme de ces tyrans extérieurs, lois, servitudes économiques et sociales, contraintes morales. Donc l'idée, c'est que l'ennemi est en nous, et que c'est d'abord là qu'on va faire la guerre à cette société, à tout ce qu'elle a déposé en nous comme préjugés. Je vais aborder maintenant les dispositifs autodidactes, hein, puisque pour réaliser ce programme d'instruction, d'élévation de soi-même, qu'est-ce qu'ils ont mis au point ? Donc, leur conception de la lutte, qui fait de l'éducation le levier principal de transformation sociale, va conduire les individualistes à fréquenter, bien sûr, les universités populaires. Les universités populaires qui fleurissent à partir de 1899, à l'initiative d'ailleurs d'un ouvrier sculpteur sur bois, typographe, qui était anarchiste mais pas individualiste, et de quelques intellectuels dreyfusards qui voulaient aller au peuple, puisque l'affaire Dreyfus a été le moment d'une collaboration de classe, on va dire, entre guillemets, peut-être dans ce qu'elle a eu de meilleur à ce moment précis de l'histoire. Après, ça s'est un peu retourné contre les ouvriers, mais il y a un moment où ouvriers bourgeois se sont rencontrés autour de la défense de Dreyfus, et chez certains intellectuels dreyfusards, il y a eu le souci de prolonger ce moment de grâce en allant vers le peuple pour l'éduquer, en lui donnant de son temps, etc. Donc ça a été cette œuvre formidable d'éducation populaire qui commence par une université qui est située pas loin d'ici, 157 rue du Faubourg Saint-Antoine, et qui s'appelle la Coopération des idées, et qui a eu un succès tel, elle est fondée en 1899, qu'en 1901, il y en a 230 autres qui sont fondées à travers toute la France et qui regroupent 50 000 adhérents, donc c'est quand même un formidable mouvement sur l'ensemble de la France. Donc le principe, c'est pour une cotisation tout à fait modique, eh bien, les adhérents à l'université populaire ont accès à une bibliothèque, à des cours conférences et même à des consultations juridiques et médicales dans certains cas. Eh bien, c'est à l'intérieur de ce cadre des universités populaires que se sont rencontrés des individualistes, et notamment deux très importants qui vont être qui vont avoir une importance fondamentale dans le courant, c'est Libertad, dont vous devez connaître le nom. Il a été campé d'ailleurs pas du tout à son avantage, mais on ne pouvait pas en attendre moins, d'Aragon dans les cloches de Bâle, et Parabjaval, qu'on a un peu plus oublié, mais qui était une personne importante. Alors eux, ils écrivent, ce sont deux jeunes hommes, Libertad étant plus jeune que l'autre, deux hommes, disons, qui collaborent aux libertaires, qui font partie de l'association antimilitariste, qui était très importante à ce moment-là, et qui a rassemblé des anarchistes et aussi des socialistes très radicaux. Ils collaborent au journal Le Libertaire. Et ils se rencontrent et ils estiment que les universités populaires, ça ne répond pas vraiment à leurs besoins, c'est trop formel, hein, effectivement très individualiste. Donc l'idée de payer une cotisation à l'année, de subir des sortes de cours magistraux par des universitaires, ça les ennuie. Donc ils vont fonder ensemble autre chose, ça va s'appeler les causeries populaires, pour offrir un cadre plus souple. Et l'idée, c'est que justement, on ne va pas inviter, ou pas systématiquement inviter en tout cas, des spécialistes qui sont soit des universitaires, soit souvent des aspirants universitaires, notamment des élèves de l'école normale supérieure, qui, entre parenthèses, venaient aussi d'un lycée populaire pour s'entraîner un peu à l'oral de l'agrégation. Enfin, c'est ce qu'on leur a reproché, parce que c'était une bonne occasion de faire une petite conférence comme ça devant un public. Et l'idée, c'est de soi-même lire, assimiler, comprendre et restituer aux camarades ce qu'on a appris à travers la lecture. Donc, ils vont eux-mêmes prendre en charge leurs conférences. Voilà, c'est ce qui distingue la causerie populaire de l'université populaire. Et puis, l'idée aussi que c'est complètement souple. On ne s'inscrit pas, on arrive aussi bien en retard, on repart, on y va une fois, pas deux. Il n'y a pas l'idée d'une inscription qui leur fait un petit peu mal en tant qu'individualiste. Alors, ils vont commencer a fonctionné cité d'Angoulême dans le 11e, puis après il y aura un lieu dans le 18e, et puis il va y avoir, c'est pareil, il y aura un beau succès des causeries, donc on en aura aussi dans d'autres arrondissements parisiens, puis en banlieue proche, puis bientôt en province. Alors il y en a qui ont été durables, il y en a qui ont fonctionné sur quelques mois et qui se sont arrêtés, ça demandait quand même pas mal d'énergie. Mais il y a eu suffisamment de groupes qui ont perduré pour que se fasse sentir la nécessité d'un bulletin de liaison entre tous ces groupes. Donc au début, il y avait une petite feuille qui circulait, chaque groupe c'est un résumé de ce qui avait été dit dans la causerie. Et ce bulletin était un outil tellement pratique, en fait, que finalement, il y a eu l'idée de le transformer en journal à un moment. Mais pourquoi on ne ferait pas aussi, nous, un journal? Bon, c'est l'époque bénie de la presse subversive, hein, ces années-là. Et vous avez je ne sais pas combien de titres socialistes, communistes, anarchistes, y compris en province, des petites publications qui, des fois, s'arrêtent au premier numéro ou au dixième ou au quinzième, d'autres qui ont une longévité extraordinaire. Mais il faut quand même se dire que ces ouvriers qui travaillent 10 heures, voire 12 heures par jour, trouvaient l'énergie le soir d'aller assister à des conférences et lisaient cette presse. Parce qu'évidemment, si elle existait, c'est parce qu'elle était achetée et lue. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça fait un petit peu réfléchir à l'enseignement libre, gratuit, obligatoire, jusqu'à... Quand on est professeur à l'université, on a quand même un peu la nostalgie de ce public qui était intéressé, malgré les dures conditions de l'époque. Et donc, ils vont créer un hebdomadaire qui va s'appeler « L'Anarchie », et qui va être fondée en avril 1905. Alors c'est l'anarchie avec un petit a, surtout pas de a majuscule, parce que une des fondatrices, Anna Mae, qui était la compagne de Libertad, était pour une réforme de l'orthographe, laquelle réforme de l'orthographe aurait entre autres supprimé les majuscules. Donc c'est très important. Et aussi parce qu'ils ne veulent pas faire de l'anarchie une sorte de nouvelle religion. Donc on la met avec un petit a. Le but de ce journal, c'est, ils le disent dans le premier éditorial, de créer un point de contact entre tous ceux qui, à travers le monde, donc vous voyez l'ambition, vivent en anarchistes sous la seule autorité de l'expérience et du libre examen. Alors, ce journal est imprimé à 6000 exemplaires, et quand on dit 6000 exemplaires, ça veut dire à peu près 3 fois plus de lecteurs, hein, donc ça veut dire un rayonnement sur 20 000 personnes à peu près, parce que un journal, évidemment, passe de main en main. Il n'a pas qu'un lecteur, parce que malgré tout, c'est cher, enfin, c'est une dépense. Donc, par exemple, dans un atelier de 5 personnes, on achète un exemplaire et puis tous les compagnons le lisent. Alors, grâce à une donatrice généreuse, parce qu'on rencontre dans ce mouvement, hein, dans l'anarchisme et dans tout le mouvement ouvrier, de temps en temps, de généreux donateurs. Donc là, c'est une femme assez excentrique, d'ailleurs, qui vient du Gard, qui est artiste peintre, qui se promène en robe blanche, qui fait des causeries. Elle loue pour eux une magnifique maison qui existe encore, pour ceux qui auraient la curiosité d'y aller. C'est 22 rue du Chevalier de la Barre. Donc en plus, bon, c'est très symbolique quand même cette rue, puisque c'est la dernière victime de l'Inquisition en France, le petit chevalier de la Barre, qui à 19 ans n'avait pas voulu se découvrir devant une procession, qui a été écartelée, brûlée, ainsi que les œuvres de Voltaire qu'on a trouvées chez lui. Ça devrait nous faire réfléchir sur le délit de blasphème que certains aimeraient bien restaurer. Ça c'est ma petite parenthèse religionphobe. Mais voilà, donc rue du Chevalier de la Barre, il y a au 22 une belle maison qu'on peut voir encore aujourd'hui, à 2 étages avec un jardin derrière. C'est là qu'ils peuvent s'installer. Alors dans ce local, ben, du coup, il y a une salle pour l'imprimerie, une salle de rédaction, des chambres pour dormir, ils sont très nombreux à y vivre, et puis une salle aussi pour les causeries. Donc c'est un lieu de rencontre. Un véritable carrefour d'anarchisme individualiste à Paris, dans un quartier justement très populaire à l'époque, subversif. C'est quand même là que la Commune de Paris a commencé, hein, par la reprise des canons. Disons que la population de Montmartre a payé cher son engagement. Donc un quartier rouge, noir comme on voudra, et aussi marqué par une certaine bohème artistique, notamment les peintres, dont beaucoup sont très proches des anarchistes. On l'oublie un petit peu, Maximilien Luce, Paul Signac, tout ça. C'est dans ce Montmartre un peu merveilleux qu'ils évoluent, et ils sont assez populaires dans le quartier d'ailleurs.
Et elle s'appelle comment la dame ?
Eugénie Rerocha, R-E-Y-R-O-C-H-A-T. Mais bientôt, il va y avoir le Métron des anarchistes qui va sortir. Un volume du fameux dictionnaire biographique du mouvement ouvrier là, sort le 1er mai, consacré au mouvement libertaire francophone, pas français mais francophone. Et Eugénie figure en ligne, parce qu'il y aura pas... Voilà, il y a 500 notices papier, une grande partie en ligne, donc vous pourrez en apprendre plus sur cette dame. Mais vous pouvez déjà aller sur le Métron, il est accessible en ligne, et donc je pense qu'elle y est déjà. comment il se présente, hein, ce petit journal. Il paraît tous les jeudis. Il est constitué de 4 pages très denses. C'est un petit peu le format des journaux militants de l'époque, le 4 pages. Il y a des rubriques scientifiques, évidemment, des comptes rendus de lecture qui tiennent une place importante. Et c'est un journal très vivant. C'est un journal où se déroulent des polémiques entre militants. Ils sont tous très proches, ils sont tous individualistes. Mais enfin, ils ont évidemment des points de vue différents sur les luttes sociales qui sont en train de se dérouler. Par exemple, certains vont approuver un mouvement, d'autres le critiquer. Le végétarisme, l'amour libre, alors c'est des polémiques incessantes, l'illégalisme, la fondation Milieu Libre, donc c'est un lieu de débat. Il y a une quinzaine de collaborateurs réguliers et puis beaucoup de collaborateurs occasionnels. Moi, j'ai essayé de les suivre tous, donc je repère sur les années, c'est 1905-1914, un noyau de collaborateurs réguliers et puis quand même beaucoup de gens qui apparaissent et puis qui disparaissent. Alors, ils annoncent dans le journal L'Anarchie le lieu des causeries et le thème. Je dis le lieu parce qu'à part celle du 18e qui se déroule rue du Chevalier de la Barre, les autres sont plus itinérantes, hein, celles des autres arrondissements, puisque bien sûr, les forces matérielles ne sont pas suffisantes pour que dans chaque arrondissement, il y ait une salle dédiée aux causeries. Hein. Donc le lieu, le thème, c'est annoncé dans L'Anarchie. Et puis on retrouve les sujets traités dans les numéros précédents sous forme d'articles. Hein, donc tous peuvent lire ces articles avant d'aller à la causerie, hein, parce que souvent des articles précèdent le thème et puis le suivent. Donc ça permet quand même une sorte d'égalité, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à la causerie complètement vierge de toute connaissance, ils ont pu se faire une idée un petit peu, réfléchir, donc il y a vraiment toujours une correspondance entre les causeries et le journal. Et puis les débats qui sont amorcés pendant les causeries se prolongent dans l'hebdomadaire et parfois sur plusieurs numéros. Donc on a comme ça une articulation et ça permet ce dispositif à ceux qui ont des soucis avec l'écrit. Ils sont tous encouragés à envoyer des textes à L'Anarchie, mais certains ont vraiment de l'inhibition par rapport à l'écriture. Ils ont quand même presque tous quitté l'école à 12-13 ans. Donc ça permet le fait d'avoir ces débats oraux, de restituer une certaine égalité. Donc c'est vraiment conçu à la fois comme un outil de propagande, mais surtout comme un outil d'auto-éducation. Du coup, bien sûr, il va y avoir beaucoup de rubriques consacrées donc à la chimie, à la physique, à la biologie, à la médecine, à l'anatomie et même aux mathématiques. Ils sont scientistes, on doit le dire, fascinés par la science de leur temps, mais il faut se placer un siècle en arrière et voir ce que ça représentait, toutes ces découvertes qui s'accumulaient. C'était merveilleux pour eux, ils veulent comprendre. Ils ont quitté l'école très tôt, mais ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi, pour certains, alors on le sait pour le petit noyau de la bande à Bonneau, parce que justement il y a eu des entretiens très poussés avec eux, j'en parlerai un petit peu plus tard, on s'est aperçu qu'ils arrivaient à saisir quand même l'ensemble de ces théories, quoi. C'était pas seulement des perroquets. Alors ces textes, ils sont écrits parfois à leur demande par des physiciens, des chimistes, des médecins, des éthologues, ce qu'on appelle les sociologues, qui sont plutôt des pré-sociologues. Mais parfois aussi, ils reprennent des textes parus ailleurs. Alors là, je ne sais pas s'il y a l'accord des auteurs ou pas. Comme ils étaient assez peu soucieux de l'égalité, je crois qu'ils s'en passaient. Ils sont aussi écrits, bien sûr, par les collaborateurs du journal quand ils ont les connaissances nécessaires. Alors, Parav Javal, qui était un homme très très instruit, écrivait, mais après, il y aura une brouille entre Parav Javal et Libertad, et Parav Javal quittera L'Anarchie et même attaquera L'Anarchie. Et puis, il y a ce jeune homme, Mauritius, tout jeune à l'époque, qui a 20 ans, qui s'est engagé dans des études de médecine. Et bien que étant d'un milieu relativement modeste, il est étudiant, mais il travaille en même temps pour payer ses études. Il fait énormément de choses. D'ailleurs, on se demande comment il arrive à tout faire. Et il tient une petite chronique dans laquelle, bon, c'est très naïf d'ailleurs quand on le lit, parce qu'on voit vraiment il a été au cours le matin et puis il restitue un peu ce qu'il a appris. Donc, des cours d'anatomie, de psychiatrie, de neurologie et même de psychologie. Il y avait Charles Binet Sanglet et Edgar Berillon qui venaient de créer l'école de psychologie de la rue Saint-André des Arts. Et il la fréquente. Enfin, il y avait très très peu de gens intéressés par ça à l'époque. Et il restitue aussi ce qu'il apprend là. Alors, il y a un peu de littérature. Au début, il y a des textes de Tchekhov, Gorky, Kipling, Mirbeau, j'ai relevé quelques noms comme ça, qui sont publiés dans les premiers numéros, souvent sous forme de feuilleton. Mais ça, c'est aussi typique du format des journaux ouvriers de cette époque. Il y a toujours une demi-page qui est un feuilleton parfois qui a très mal vieilli, mais parfois ce sont de grands auteurs et ça passe plutôt bien. Après, ces textes vont disparaître et c'est eux-mêmes qui vont écrire des textes de fiction, pas toujours très bien réussis, et qui vont aussi écrire des poèmes. Alors, le contenu du journal, il porte aussi sur l'actualité sociale et politique, mais ils ont quand même une réserve par rapport au mouvement ouvrier qui les conduit malheureusement à ignorer pas mal de conflits sociaux de leur époque qui sont pourtant intéressants et qu'ils n'ont pas couverts. Et ça leur est d'ailleurs reproché par certains ouvriers qui leur écrivent en disant « mais vous êtes trop élitiste, il faut parler de ces luttes, elles sont importantes, ça vous paraît peut-être minable, mais c'est important. » Et nous, pour faire connaître nos idéaux individualistes, eh bien on est bloqué parce que vous avez l'air tellement méprisant envers le mouvement ouvrier. Et il y a, parmi ceux qui aussi protestent contre cette attitude, il y a une grande individualiste qui s'appelle Armandine Mahé, qui est la sœur de Anna. Anna Mahé est la compagne de Libertad. Enfin, elle a été à un moment la compagne de Libertad. Ils ont eu un petit garçon qu'ils ont appelé Minus parce qu'il refusait l'état civil, donc il n'a pas été déclaré à l'état civil. On l'a appelé Minus en attendant qu'il choisisse lui-même son prénom. Donc il y avait vraiment beaucoup de subversion au quotidien. Et Armandine était sa sœur, alors on a dit qu'elle était, on trouve un peu partout qu'elles étaient toutes les deux amantes de Libertad, mais en fait souvent c'est des indicateurs aussi qui livrent, il leur suffit de voir deux personnes se tenir par le cou, et pour eux ça y est, c'est déjà un amant, une amante, donc bon, il faut se méfier. Peu importe d'ailleurs qu'elle ait été ou non son amante. En tout cas, c'est la sœur d'Anna Mahé. Elle est très active dans le milieu. C'est aussi une ancienne institutrice. Et elle, elle est tout le temps en train de protester contre ce mépris envers le mouvement ouvrier en disant « Le but des anarchistes, ça ne doit pas être de créer une aristocratie scientifique. » Et notamment, pour elle, ce qui était important, c'était la lutte pour l'abaissement de la durée de travail hebdomadaire. Puisque c'était effectivement le seul moyen de dégager du temps pour l'instruction, et donc ça devait concerner les individualistes. Et là-dessus, effectivement, ils ont été quand même assez sensibles à cette revendication-là, beaucoup plus qu'aux revendications salariales qui leur paraissaient médiocres, inintéressantes, etc. Alors, autour du journal, s'est développé un collectif de vie, et c'est un collectif de travail, c'est-à-dire, il n'y a pas de division du travail intellectuel et manuel. Ceux qui écrivent les articles, eh bien, ils les corrigent, ils les composent, ils les impriment, ils vont tourner la presse aussi. Ils sont sur le refus de la division du travail. Donc ils partagent cet espace de vie qui est le local de la rue du Chevalier de la Barre depuis 1906. Et plus tard, le journal va déménager. Eugénie Rérocha va se fatiguer un peu de payer. Ils vont partir à Romainville après la mort de Libertad qui meurt en 1908. Un des collaborateurs, le Rulot, va installer à Romainville, en banlieue proche de la maison. Là, malheureusement, elle a été détruite il n'y a pas longtemps, mais elle était détruite. Ils vont aussi faire l'acquisition, enfin, comme locataire, d'une grande maison à deux étages, avec un grand jardin, là, beaucoup plus grand, bien sûr, on est en banlieue, qui va leur permettre de vivre un petit peu en autoproduction, c'est-à-dire qu'ils vont cultiver des fruits, des légumes, etc. Et les causeries vont se tenir là, mais du coup, l'éloignement de Paris va un petit peu affaiblir le mouvement, le rayonnement du mouvement, bien sûr. Même s'il y a un tramway qui part de l'Opéra et qui s'arrête juste devant la maison. C'est à Romainville que vont se retrouver un certain nombre d'individualistes venus de Belgique qui composaient, quand ils vivaient à Bruxelles, un journal qui s'appelait Le Révolté, qui est un peu le cousin belge de l'anarchie et qui était aussi créé dans un milieu libre qui était basé à Stockel, qui est une communauté qui avait été fondée par un mineur du Borinage, Chapelier, qui faisait vivre comme ça un certain nombre de femmes, d'hommes et d'enfants autour de ce projet de journal. Voilà. Alors, parmi ces nouveaux venus, il y aura les fameux protagonistes de la bande à Bono, Raymond Caïman, Octave Garnier, qui est français, mais qui était un déserteur insoumis caché en Belgique. Oui, parce qu'ils sont presque tous insoumis par rapport au service militaire aussi, bien sûr. C'est tout à fait cohérent avec leur représentation de la vie bonne, donc ils essayaient d'éviter le service. Seulement quand ils se faisaient prendre, là pour le coup, c'était pire. C'était les bataillons d'Afrique, toute l'horreur des bataillons d'Afrique. Il y a Garnier, Caïman, Deboué, typographe, celle de Deboué, tous amis de Victor Serge. Victor aussi est un Belge, puisqu'il est né de parents russes, mais il a vécu à Bruxelles, donc lui aussi arrive à Romainville. Et d'ailleurs, il va être amené à diriger le journal avec Rirette, sa compagne du moment. Voilà. Le 15 avril 1909, justement, après la mort de Libertad, dans un éditorial non signé, c'est-à-dire rédigé par toute l'équipe de l'anarchie, on peut lire cette profession de foi qui est Nous voudrions montrer aux hommes que dès aujourd'hui, il est possible de vivre la plus merveilleuse des expériences communistes. Nous l'avons déjà commencé par la vie en commun, par le travail en commun, qui nous a permis de subsister 4 années sans presque d'aide pécuniaire en plein cœur de Paris. Nous voudrions intensifier cette propagande, agrandir notre cercle d'action, édifier un véritable milieu anarchiste plus éloigné encore des contingences sociales et vivre, alors là tout est dit, vivre hors de toute autorité dans la joie d'un travail raisonnable. Voilà. Et donc c'est une propagande par le fait en même temps, hein, parce qu'en vivant comme ça, en composant le journal de cette manière, il montre que c'est possible de travailler en commun, sans autorité, sans partage du travail manuel et intellectuel, et en milieu de vie, avec aussi une relative égalité des hommes et des femmes. Bon, on verra que de ce côté-là, ce n'était pas complètement au point, mais ils avaient au moins le mérite d'essayer de le faire, ce qui n'était pas la généralité des milieux militants de l'époque. Alors maintenant, j'arrive à la critique de l'école laïque. Donc, qui sont ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, qui sont très jeunes, hein, entre 20 et 25 pour la plupart? Il y a quelques cas typiques de gens soit beaucoup plus jeunes, soit plus âgés, mais dans l'ensemble, vraiment, c'est autour de cette tranche d'âge. Et les lecteurs aussi, hein, les lecteurs de l'anarchie aussi. Eh bien, ce sont des enfants d'ouvriers ou de paysans pauvres qui ont fréquenté l'école élémentaire jusqu'à 12 ans, parce que justement, ils étaient de bons élèves. Et la législation de l'époque, c'était école obligatoire jusqu'à 13 ans, sauf si on obtenait avant le certificat d'études. Et comme ils ont tous été plutôt d'excellents élèves de la communale, ils l'ont eu certains à 10 ans, le certificat d'études. C'est le cas de Mauritius, c'est ce qui lui permet de bénéficier de l'entrée dans un collège. Sinon, ils l'ont eu à 12 ans, et du coup, ils avaient le droit de travailler à 12 ans, et c'est ce qui s'est passé, ils ont travaillé à 12 ans. Donc, ils sont sortis de cette école avec pas mal de frustrations. Ce sont des frustrés scolaires. Ils ont aimé apprendre et ils avaient envie d'aller plus loin, et pas envie d'aller plus loin pour avoir une mobilité sociale. C'est pas du tout le credo de l'époque dans le milieu ouvrier. On n'a pas envie de devenir clerc de notaire ou commis d'architecte. C'est pas du tout un avenir qui fait rêver. On veut rester ouvrier, mais un ouvrier instruit, un homme complet. Et il y a un grand mépris pour les professions soi-disant plus prestigieuses, si vous voulez. Donc il n'y a pas du tout l'idée de la mobilité sociale, qui est quand même une idée récente qu'on voit comme progressiste, alors qu'elle ne l'est pas, à mon avis. Et d'ailleurs, elle marche plus tant mieux, parce que peut-être qu'on viendra à autre chose. Par contre, ils ont l'impression qu'on a ouvert une porte pour eux, hein, vers le savoir. Leurs parents n'ont pas bénéficié de cette école gratuite laïque obligatoire. Ils ont été alphabétisés, les parents, parce qu'il y avait quand même des écoles, mais on y passait 2 ans, 3 ans, pas plus. Et encore parfois très haché. Si on prend par exemple Ravachol, qui est de la génération d'avant, Ravachol, il a été 3 fois 6 mois à l'école, parce qu'entre-temps, bah, il devait faire tous les travaux des champs, etc. Et avec ses 3 fois 6 mois d'école, il a quand même été capable d'écrire de beaux textes, enfin... Quand on lit le récit de sa vie ou les poèmes qu'il a composés, les chansons qu'il a composées, c'est pas rien. Donc les parents ont eu beaucoup moins. Donc eux, ils ont eu la chance d'avoir davantage, et puis en même temps, on les a jetés sur le marché du travail. Il y en a un qui dit « On m'a jeté à 12 ans dans un métier qui, au lieu de les développer, a comprimé mes facultés intellectuelles. » Il y en a un autre, qui fera partie de la bande à Bono, qui écrit « À 12 ans et demi, on m'a mis au travail dans une raffinerie de sucre. J'ai appris tout ce que les enfants apprennent dans les ateliers, être méchant, menteur, rampant devant les forts, j'étais parti pour faire une belle brute. » À tel point d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux ont été jusqu'à dire que c'est des compagnons rencontrés en prison, qui n'étaient pas anarchistes au départ, qui grâce au contact des illégalistes emprisonnés, parce qu'on n'a pas emprisonné les anarchistes individualistes qui n'ont rien fait d'illégal, hein, il y avait une liberté d'expression quand même, eh bien, ils ont donné en centrale, en prison, le goût du savoir à certains qui plus tard ont dit, bah, grâce à un tel et un tel que j'ai connu en prison, je suis heureux d'avoir été en prison parce que ça m'a arraché à l'animalité. Il y en a un qui va jusqu'à dire, ça m'a arraché à l'animalité. Il y en a qui ont bénéficié d'un petit surcroît de formation, notamment des femmes. Il y a pas mal d'institutrices dans ce milieu, hein, d'institutrices soit congréganistes, soit de la laïque, qui ont après laissé tomber l'enseignement. Alors là, on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'elles ont eu des ennuis avec leur hiérarchie du fait de leur mode de vie. Les instituteurs et institutrices devaient être irréprochables du point de vue de la moralité, donc rien que de vivre en union libre, ça pouvait vous discréditer. Et ils ont évidemment un petit avantage sur les autres, parce que ça paraît rien, vu de très haut, 2 ans d'école en plus, même 1 an de cours complémentaires, mais ça faisait une vraie démarcation en même temps. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'école primaire supérieure, hein, qui n'était donc pas le collège, mais qui dispensait quand même une formation bien plus complète. Et on voit que ceux qui ont été à l'école primaire supérieure, eh bien, écrivent souvent plus dans les colonnes de l'anarchie, écrivent mieux, etc. C'est un surcroît qui est énorme, en fait. Et puis, il y en a deux qui sont un peu différents, c'est Armand et Victor Kibatchich, qu'on connaît sous le nom de Victor Serge, qui, eux, viennent de milieux plus bourgeois, de milieux très politisés. Le père d'Armand était communard. Les parents de Victor Serge étaient des aristocrates russes anti-tsaristes révolutionnaires. Et eux n'ont pas mis leurs enfants à l'école parce qu'ils méprisaient complètement, justement, ce stupide enseignement bourgeois pour les pauvres dispensé par la communale. Bon, c'était quand même des gens assez élitistes. Donc, ils ont fait eux-mêmes l'école à leurs enfants. Alors, plus ou moins efficacement, en fait, ils ont été polyglottes. On leur a appris plusieurs langues. Alors, du côté de Victor Serge, il n'y a rien d'étonnant. Sa mère était polonaise d'origine, son père russe. Ils ont vécu en Angleterre, donc on lui a appris l'anglais, le français, le russe, le polonais, tout en même temps. Donc après, comme vous le savez, plus on connaît de langues très jeunes, plus on peut en apprendre d'autres. Donc en prison, il a appris l'espagnol, etc. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, il a été recruté, après aussitôt arrivé en Union soviétique, après la Révolution. Il est très vite promu quand même pour un anarchiste qui s'est uniquement illustré par son activité dans la bande à Bono. C'était quand même pas une recrue très fiable et immédiatement il était parachuté à des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il avait cette merveilleuse connaissance des langues quand même. Il maniait très bien 5-6 langues. Ils ont eu une éducation un peu disparate, mais dispensée par des gens cultivés. Le père de Victor était assez féru de science, lui a dispensé une éducation scientifique. Et sa mère était très littéraire, elle lui a appris à lire l'anglais dans des éditions bon marché de Shakespeare, etc. Il connaissait par cœur, à l'âge de 8 ans, des textes entiers de Shakespeare. Bon. Mais alors, comme il le disait, son père pouvait pendant 10 heures lui faire cours la même journée, qu'il n'en pouvait plus, et puis après, pendant 2 mois... plus lui dispenser une seule leçon, hein, c'est le problème. Enfin bref, et eux étaient vraiment des autodidactes, bien sûr, puisque tout petit, on les adressait à ça, en quelque sorte. Ils avaient un accès libre à une bibliothèque, hein, qui ressemblait un peu à celle-ci, très bien fournie. Donc, ils lisaient, ils allaient dans les musées, les bibliothèques, etc. En dépit quand même de ces différences, ou ces petites différences, on pourrait dire, dans leur parcours, ils ont tous été très tôt au travail. Même Armand et Victor Serge ont quand même travaillé à 16 ans, c'est un peu plus tard que les autres, mais enfin, c'est pas très tard non plus. Ce que dit Victor Serge, c'est « La nourriture, le gîte, le vêtement nous étaient à conquérir de haute lutte, et l'heure pour lire et méditer ensuite. » Alors lui-même, quand il arrive en France, il trouve une place de dessinateur industriel à Belleville. Donc vous voyez déjà aussi au niveau du travail, vous pouvez avoir accès à quelque chose d'un peu moins dur que l'atelier et de mieux payé. Il dessine des radiateurs, bon, c'est vrai que c'est pas fabuleux. Il va, après ses journées quand même de 10 heures à dessiner des radiateurs, s'enfermer à la bibliothèque Sainte-Geneviève où il peut étudier jusqu'à 22 heures. Effectivement, en prison, ils ont continué cette quête de savoir, comme je l'ai dit, ils ont même transmis ce goût du savoir à des co-détenus. Et à la centrale de Melun, par exemple, on sait grâce à Victor qui a écrit un livre merveilleux sur la prison, un des seuls témoignages sur les prisons françaises de l'époque de l'intérieur. Ça s'appelle « Les hommes dans la prison ». C'est un récit de Victor Serge, heureusement réédité par les éditions Michéa, et depuis réédité encore, je crois. Enfin, donc on le trouve en tout cas. Eh bien, les individualistes incarcérés à Melun dans les années 1910 s'échangeaient la CAM. La CAM, eh ben, la CAM, c'était pas du crack, non. C'était diminutif de Camelot et c'était des ouvrages qu'on leur lançait par-dessus les murs de la prison avec la complicité des gardiens, et des ouvrages de Balzac, de Taine, de Spinoza. C'était ça la CAM de l'époque, vous voyez un peu la différence. Ils étaient enveloppés d'une sorte de craft marron parce que la bibliothèque de la prison avait les ouvrages enveloppés comme ça, d'une sorte de craft marron, donc ils étaient recouverts de la même manière pour que les gardiens ne perçoivent pas que c'était des ouvrages extérieurs, parce que les ouvrages de la prison eux-mêmes, c'était catastrophique, évidemment. Et donc, si on était surpris en train de lire un ouvrage venu comme ça d'extérieur, eh bien, c'était 30 jours de cachot, et je vous assure, 30 jours de cachot à Melun en 1910, c'était pas drôle du tout. Et ils le risquaient pour lire, pour continuer à s'instruire. Ça les rendait malades de savoir qu'un livre venait de paraître et qu'il ne pouvait pas y avoir accès. Et je voudrais là reparler des bandits tragiques, j'aime mieux les appeler comme ça que bande à Bono. Ces garçons qui étaient incarcérés à la santé dans l'attente de leur procès, ils ont été arrêtés entre décembre 1911, les premières arrestations, jusqu'au printemps 1912. Et le procès a eu lieu en février 1913, et pour ceux qui ont été guillotinés, ben, il s'est écoulé très peu de temps entre le verdict et le... Voilà. Donc, pendant leurs 6-8 mois de détention, il y a un homme qui s'appelle Michon, Émile Michon, qui est docteur en droit et une sorte de criminologue de l'époque. Bon, il n'y avait pas de criminologie, mais il était diplômé de sciences pénales. Il a eu l'autorisation de rendre visite aux membres de la bande à Bono, entre guillemets, mais pas seulement de rendre visite une fois. Il a eu l'autorisation de leur rendre plusieurs visites par semaine et de s'entretenir avec eux. Ce qu'il a fait, ils l'ont accepté parce qu'ils avaient toujours ce goût de la propagande. Donc jusqu'au bout, c'était ces jeunes garçons de 20 ans qui étaient promis à la guillotine et qui le savaient, avaient encore cette volonté de témoigner de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils avaient voulu faire. Et donc, on accueillit ce visiteur avec intérêt et aussi, bon, ça leur faisait de la compagnie humaine. Bon, ils avaient besoin de parler et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Lui a pris des notes. Il en a tiré un ouvrage qui s'appelle « Un peu de l'âme des bandits », qui est accessible en ligne d'ailleurs, parce qu'il était très difficile à trouver. On peut, sur le site de la BNF, avoir accès à ce livre et on sent qu'il est toujours obligé d'en dire du mal. Hein. Alors, toutes les cinq lignes, il dit oui, bon, c'est un peu d'affreux personnages. Mais il est complètement fasciné par eux, en fait, et par leur immense savoir. Il dit qu'il doit s'accrocher pour avoir des conversations, alors scientifiques, d'ailleurs, il n'y arrive pas, et même philosophiques avec eux, parce qu'ils ont une culture philosophique extrêmement étendue. Et sachant qu'ils ont quitté l'école à 12 ans, là, il a surtout affaire à Deboué, qui a quitté l'école à 12 ans, qui est belge, Caïman, au même âge, qui était fils d'un cordonnier, Caïman qui est d'une intelligence prodigieuse, on l'appelait Raymond la science, bon c'était pas rien, Monnier qui est un petit jardinier de Pyrénées-Orientales qui a été placé comme domestique dans un château à l'âge de 10-11 ans, qui a une prodigieuse culture aussi, qui a lu Lamarck, Darwin, qui a mis ça en rapport avec ses pratiques de jardinier, qui tient des conversations là-dessus et qui est passionné vraiment par les sciences biologiques. Puis Soudi, alors qu'il n'aime pas, le pauvre, qui est le plus jeune de la bande, contre lequel il a vraiment des préventions. Chaque fois qu'il lui donne la parole, c'est pour dire qu'il aurait dû aller à Sainte-Anne et pas à la santé. Bon. Mais il a ce petit groupe-là de 4-5 personnes. Et grâce à ça, grâce à ce livre, on voit aussi un petit peu tout ce qu'il lisait. Alors, il y a Condorcet, il y a Spinoza, il y a Aristote. Enfin, il connaissait ses auteurs. Il faut dire que l'Anarchie publie l'Anarchie, mais aussi d'autres journaux, comme les Temps Nouveaux, le Libertaire, les grands journaux anarchistes, publiaient des petites brochures bon marché avec les textes de ces penseurs pour que ce soit diffusé parmi les ouvriers. Donc il y avait une possibilité de lire. Et puis alors évidemment, Lamarck, Darwin et malheureusement Le Dantec, hein, qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, qui était un biologiste très scientiste, très déterministe, mais qui est un peu leur idole, une pensée un peu figée, mais à cette époque c'était quelqu'un de reconnu. Et ce qui l'impressionne aussi, c'est que, encore à quelques jours de passer sous le couperet de la guillotine, bien ils continuent à s'instruire et à écrire, et ils écrivent d'ailleurs fort bien, ils mettent des textes d'eux, vraiment qui sont des textes impressionnants. Par exemple, on leur propose du vin, puisque dans les prisons on avait le droit à l'époque de boire du vin, ils n'en veulent pas, ils refusent la viande et ils demandent d'avoir un régime végétarien, ils ouvrent toujours le vasistas et lui est frappé parce qu'il a l'habitude de visiter des prisonniers, puisqu'il essaye de cerner ce qu'est un criminel, donc bon voilà. Et il dit les autres sont toujours frileux, crasseux, eux sont très propres. D'ailleurs, ceux qui ont fait l'autopsie de Bono et de ceux qui sont morts sous les balles, la première constatation des médecins légistes, c'est la propreté. C'est dit, mais ils ont des pieds, des ongles de pieds, d'une propreté extraordinaire. Donc la propreté pour eux, c'était très important, s'aérer. Ils font de la gymnastique suédoise dans la prison. Ce qu'ils ont le plus mal supporté, on leur a infligé, c'est vraiment dramatique. Après le verdict, quand quelqu'un était condamné à mort, on lui mettait une camisole de force. Et ça, c'était terrible. Et il dit que eux qui supportaient avec tellement de stoïcisme leur mort prochaine, ils savaient qu'ils allaient être condamnés soit au bagne, soit à la guillotine, ont vraiment très mal supporté la camisole, qu'on n'avait aucune raison de leur infliger. Il y avait des gardiens en nombre. Mais... ces anarchistes individualistes, malgré leur goût du savoir, étaient très critiques par rapport à l'école laïque. Alors, je cite là encore ce que disait par exemple Anna Mae. Voyons-nous des gens ayant rapporté de l'école le goût de l'étude, le besoin de savoir toujours de nouvelles choses. Nous ne voyons que de pauvres êtres dont l'école a accentué encore les dispositions héréditaires à l'indifférence, à la passivité, à l'impossibilité de chercher à s'instruire par eux-mêmes. Et elle critique, Anna, la formation des instituteurs. Elle a fait l'école normale de Nantes, elle, je sais maintenant, depuis pas très longtemps qu'elle l'a fait. Et elle dit qu'on les jette dans le métier beaucoup trop tôt, à 18 ans, c'est encore des enfants. Ils ont des classes surchargées, 50 à 60 élèves, en tout cas en zone rurale, ce qui est quand même énorme. Et du coup, ils sont obligés évidemment de recourir à une pédagogie autoritaire que les anarchistes éprouvent, mais on ne peut pas faire autrement avec une classe de 60 bambins, en plus avec des niveaux mélangés, souvent, en zone rurale. Des programmes lourds de savoir inutile, et elle critique même l'architecture des bâtiments. Elle dit que c'est fait pour écraser complètement l'enfant, ces écoles casernes, avec ces plafonds hauts. Ce qu'ils disent aussi, c'est que on a supprimé l'école congréganiste, elle n'est pas complètement supprimée, mais elle a été marginalisée avec son catéchisme, mais on a substitué au catéchisme une instruction morale et civique qui enseigne finalement le respect de la propriété privée, de la police, de la justice, de l'armée et de la patrie. Donc, dit-elle, sous couvert de laïcité et de neutralité, l'école de la Troisième République distille une forme de propagande républicaine qui, en fin de compte, justifie la domination de la bourgeoisie. Et donc ça, c'est assez moderne aussi comme critique, parce qu'on la voit ressurgir bien plus tard. Et ça fait dire aussi à une autre femme individualiste de grande envergure, Émilie Lamotte. Émilie Lamotte, c'est une fille formidable, elle était artiste peintre, militante néo-malthusienne, c'était très important pour eux d'informer les gens sur la contraception, puisqu'il y avait évidemment des façons d'assurer une contraception, notamment par le préservatif, etc., et d'autres dispositifs féminins qui permettaient quand même, en tout cas, de bien réduire la natalité. Donc, ils faisaient des conférences, et ça, c'était réprimé à l'époque. Ça sera encore plus après la guerre de 14, mais ça l'était déjà. Donc, Émilie, qui elle-même avait 4 enfants de 3 pères différents, mais parce qu'elle l'avait voulu, eux tous disaient, il ne faut avoir que les enfants qu'on a envie d'avoir, mais aussi qu'on peut assumer. Donc, elle, cette femme, parcourait la France pour faire des conférences néo-malthusiennes. Elle écrivait dans le libertaire, dans l'anarchie, et elle a fondé un milieu libre à Saint-Germain-en-Laye, dans une ferme où elle a vécu avec d'autres femmes, hommes et enfants. Ensuite, elle en a eu assez du milieu libre. Elle a pensé que le mieux, c'était la vie nomade. Elle a acheté une roulotte avec son compagnon de l'époque. Ils sont partis sur les routes. Et elle est morte près d'Alès, dans le Gard, comme ça, quand elle est en train d'expérimenter un autre mode de vie. Elle voulait aller en Algérie avec sa roulotte, d'ailleurs, Algérie qui alors était la France. Bon, c'est des gens quand même qui étaient très entreprenants. Imaginez, une femme quand même de 35 ans et 4 enfants, et qui a toute cette énergie, cette vitalité, ce goût de l'expérimentation sociale. Alors, elle était ancienne institutrice, elle aussi. Et voici ce qu'elle dit. Sous prétexte que l'enseignement est obligatoire et gratuit, laïque et commode, nous laissons empoisonner nos enfants de respect imbécile et de criminelle stupidité. Mais c'est d'ailleurs une critique que Marie Curie faisait à l'école, parce que Marie Curie était assez proche finalement de la guerre sociale, puis en tout cas elle a photographié ses enfants posant avec la guerre sociale, donc j'imagine qu'elle appréciait cet hebdomadaire quand même très, très tonique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était une petite bande de prix Nobel avoir essayé de faire la classe eux-mêmes à leurs enfants, mais ils s'en sont un peu lassés. Et elle disait, il vaut mieux noyer son enfant que de l'envoyer à l'école. Donc les anarchistes individualistes avaient réfléchi bien sûr à ce que pourrait être une éducation libertaire préparant les enfants à devenir des individus conscients et autonomes. Anna Mae s'est attelée à la question. Presque tous ses articles dans l'anarchie, d'ailleurs, portent sur l'éducation. Alors, l'éducation donnée par les parents, comment on doit se comporter avec les bébés, ne jamais parler bébé aux enfants, dodo, etc. Et puis aussi, ce que devait être l'école. Donc, elle a écrit, d'ailleurs, en 1908, une petite brochure qui s'appelle « L'hérédité et l'éducation ». Elle combat l'orthographe parce qu'elle estime que tel qu'il a été codifié, finalement, assez tardivement, à la fin du XVIIIe et surtout au courant du XIXe, avec justement l'arrivée de la bourgeoisie comme classe dominante, eh bien pour elle, et ça c'est une critique très moderne parce qu'on la retrouve un peu chez Bourdieu, c'est l'idée que c'est une stratégie de distinction des nouvelles classes dominantes pour se distinguer du commun. Et elle fait observer que Voltaire, par exemple, laissait son éditeur complètement libre. Et c'est vrai que quand vous lisez les manuscrits, vous voyez le même mot écrit quatre fois de façon différente, de même pour le Marquis de Sade, puisque ces manuscrits ont été publiés, on voit que Sade, il écrivait très bien, comme un dieu, disent certains. Mais il y avait peu le souci de l'orthographe. C'était vraiment pas un souci, c'était l'imprimeur qui décidait. Il disait à l'éditeur qui est imprimeur, faites comme vous voulez pour... voilà. C'est après que c'est devenu tellement important. Du coup, elle est contre, et elle écrit en orthographe FE simplifié. Donc elle écrit tous ses articles dans l'anarchie en orthographe simplifiée, ce qui les rend très difficiles à lire quand même, hein, parce qu'on a des automatismes qui font qu'on bute sur ces articles. J'ai eu du mal. Elle dit que cet apprentissage si précoce de règles académiques, puisque c'est vrai, la dictée, c'était l'alpha et l'oméga de l'enseignement, d'ailleurs même quand on n'est pas centenaire, enfin moi je me souviens avoir passé des heures et des heures sur le bled à recopier, bon... Et on encombre inutilement le cerveau de l'enfant et ça retarde pour elle la maîtrise de l'écriture et même ça inhibe, c'est un effet inhibiteur sur la créativité de l'enfant. Donc c'est très mauvais. Et en plus, ce qu'elle conteste, c'est que certaines règles, comme le pluriel des mots en A, l'usage de double consonne, le PH à la place du F par exemple, eh bien, sont assez arbitraires et du fait que certaines de ces règles sont arbitraires, eh bien ça rentre en contradiction avec la logique. Et donc c'est mauvais puisque pour les individualistes, le principe pédagogique essentiel, c'est d'enseigner aux enfants des vérités scientifiques. C'est de pouvoir justifier tout ce qu'on enseigne. Donc là, si l'enfant demande pourquoi il y a 2M, 2N, eh bien on ne peut pas lui répondre rationnellement. Donc ça contredit tout l'enseignement qui n'est fondé que sur le raisonnement. Elle considère d'ailleurs, et tous les individualistes considèrent ça, qu'on apprend trop tôt à lire et qu'il faudrait plutôt commencer par l'initiation scientifique. On peut donner des leçons de science à des tout petits enfants à l'aide d'expériences qu'on leur fait réaliser ou qu'on réalise devant eux. Et bon, là c'est peut-être aussi un peu naïf pour elle. L'enfant aurait envie du coup d'en savoir davantage par cette initiation scientifique et serait lui-même demandeur de lecture. Bon, ce n'est pas prouvé. Pour elle, il n'y avait pas besoin de savoir lire et écrire pour acquérir des notions de physique, chimie, biologie, voilà. Et qu'il fallait toujours que ce soit le désir d'en savoir plus qui mène l'enfant vers l'apprentissage. Donc on ne devait pas imposer à l'enfant des connaissances avant qu'il en saisisse l'intérêt. C'est un peu l'idée de faire un enfant autodidacte qui partirait lui-même à la conquête du savoir en suivant son propre rythme, ses propres centres d'intérêt. Ça, c'est quand même assez difficile à réaliser. Hein. Comme Émilie Lamothe, les deux ont écrit sur l'éducation, ils sont assez proches. Elle dit qu'il faut absolument tirer parti de cette propension qu'a l'enfant à sans cesse expérimenter. Et elles disent quand un enfant jette une pierre contre un carreau, il fait une expérience. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le gronde. Il met le feu à la maison, il fait une expérience. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le gronde. Alors qu'il faudrait partir de cette formidable goût d'expérimenter de l'enfant, alors évidemment en limitant quand même la casse et les dégâts de tout ordre, pour l'amener à apprendre. Hein. Donc lui fournir des outils d'expérience. Voilà. Pas le réprimander, pas le punir, mais guider, orienter ses activités dans le cadre de petits groupes en fournissant les instruments, les matières premières. Donc vraiment, leur cible, c'est ce qu'elles appellent l'éducation gavage. On gave les enfants d'un savoir qu'ils n'ont pas réclamé. Et du coup, ça tue la curiosité intellectuelle en apportant des réponses toutes faites à des questions que l'enfant ne s'est même pas encore posées. Voilà. Mais par contre, être tout le temps à l'écoute justement des questions qu'il pose. Elle place très haut la méthode expérimentale pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que pour elle, la méthode expérimentale, ça a un très fort pouvoir subversif. Pourquoi ? Parce que le fait d'observer, de formuler une hypothèse, de la vérifier en faisant une expérience, si l'expérience invalide l'hypothèse, on observe à nouveau, on élabore une autre hypothèse, et puis on crée un autre dispositif expérimental pour la vérifier, ça habitue l'enfant, disent-elles, à ne rien tenir pour vrai de ce qui ne peut être démontré. C'est en ça que c'est subversif, parce qu'un enfant élevé de cette manière ne serait plus crédule, docile, mais voudrait toujours vérifier ce qu'on lui dit. Et c'est comme ça qu'on pourrait le protéger de la crédulité, de l'endoctrinement et aussi de la religion. Elles le disent, on ne va pas dire à un enfant « Dieu n'existe pas, la religion est une bêtise », pas du tout. Ça ne sert à rien et c'est mauvais parce qu'on n'a pas à lui dire, il doit lui-même déduire l'inexistence de Dieu du fait qu'on ne peut pas démontrer cette existence. Si un enfant est élevé de cette manière, il sera absolument imperméable à l'endoctrinement. Alors, ils sont probablement beaucoup trop optimistes, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus d'enfants élevés comme elles le disent. En tout cas, elles sont pour une éducation non autoritaire. Et elles ne veulent pas, et ça, Anna le dit sans arrêt, je ne veux pas endoctriner Minus. Ça m'amuse pas du tout qu'ils disent foutre Dieu, sans Dieu, comme j'ai l'impression qu'ils joueraient pas mal le petit Minus, et elle, elle aime pas ça, parce qu'elle a l'impression que ça lui est inculqué de l'extérieur, elle a pas envie qu'il crie vive l'anarchie, non, lui-même choisira sa voie, mais il faut l'élever de manière à en faire un être critique. Donc leurs principes pédagogiques, ils sont assez proches des principes des grands éducateurs libertaires, alors on a Francisco Ferrer, l'espagnol Francisco Ferrer, qui a été exécuté en 1909 à Barcelone. En réplique à l'exécution de Ferrer, à Paris, il y a eu une manifestation de 20 000 personnes le soir même de l'exécution. Les conduites de gaz ont été percées par les terrassiers. La rue des pavés, les conduites de gaz percées et enflammées. Paris était transformé en brasier. Et le nombre de tramways enflammés était énorme. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Francisco Ferrer, Sébastien Faure, bien sûr, et puis Paul Robin. Je les ai mis en dehors de l'ordre chronologique, c'est plutôt Paul Robin, Sébastien Faure, Francisco Ferrer et Madeleine Vernet qui avaient mis en œuvre dans des établissements qu'ils avaient fondés mais qui, à part l'école libre de Barcelone, étaient des internats. Ils avaient mis en œuvre ces principes, éducation anti-autoritaire, pédagogie active, mixité et non-séparation du travail manuel et intellectuel. C'est-à-dire les enfants faisaient tout. On ne payait pas des gens pour faire le ménage, la cuisine, etc. Ils cultivaient les légumes du jardin qu'ils cuisinaient. Ils avaient une éducation fort complète et artistique, très poussée, aussi astronomique, avec des instruments achetés pour observer les étoiles. Ils faisaient beaucoup de plein air aussi. L'internat, c'était La Ruche pour Sébastien Faure. Et puis Paul Robin, c'était L'Orphelinat sans puits. En fait, c'était un inspecteur de l'école primaire, qui était tellement subversif que pour se débarrasser de lui, le ministre de l'éducation de l'époque, qui le respectait beaucoup, lui avait confié la direction de cet orphelinat. Et là, il a pu faire toutes ses expériences pédagogiques. Mais il a fini, sous la pression de l'Église, par être évoqué, parce qu'on disait que les enfants étaient corrompus, du fait même que petites filles et petits garçons s'ébattaient ensemble en plein air. Il y a un bouquin, d'ailleurs, sur, qui est très bien fait, sur l'orphelinat de Saint-Puis. Mais elles, ces femmes, elles étaient par contre opposées à l'internat. Justement, elles disaient, c'est très bien ce qu'ont fait ces pédagogues, nous on approuve complètement leur méthode, elles développent rien de très original d'ailleurs. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas très original, c'est déjà contenu chez ces éducateurs. Mais en revanche, je pense, c'est leur sensibilité peut-être de mère aussi qui leur fait dire que l'internat c'est mauvais. Qu'un enfant, il a besoin de tendresse aussi, que ça il le trouve dans sa famille, sauf si la famille est très exécrable. Mais elle pense que c'est très rare, et qu'en plus ça coupe de la vie l'internat, et pour elle ça évoque la caserne, l'armée, et que c'est bien qu'un enfant déambule dans une ville, voit travailler des artisans, etc. Et pour Émilie Lamotte, le mieux c'est même évidemment le milieu libre. Donc à Saint-Germain, il y avait 6 enfants, 4 étaient à elle, les autres étaient à d'autres colons. Eh bien, les enfants interrogeaient le menuisier, lui donnaient un coup de main, on pouvait lui donner une petite leçon de géométrie à l'occasion. Quand on plantait les plantes ou qu'on cultivait le jardin, c'était le moment de leçon de biologie. Voilà. Donc, l'idée des individualistes, c'est qu'on ne doit pas laisser l'Église. On est en pleine controverse sur l'école publique laïque obligatoire. On est en plein combat contre la religion. Et on ne doit pas laisser l'Église et l'État se disputer l'éducation des enfants, mais proposer une autre possibilité, une alternative. Comme leurs projets sont assez peu réalisables, Anna Mahé a toujours voulu créer une école à Montmartre, elle n'a pas réussi, faute d'argent. Eh bien, elles sont pour créer après la classe des études dans une petite pièce comme ici, faire venir les enfants 10 par 10 et leur faire réaliser des expériences, les aider un peu à retravailler ce qu'ils ont vu dans la journée. Et ça s'est fait un peu à Paris, des camarades individualistes, compagnons, compagnes ont créé ce genre d'études. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là, je crois, parce que... Thank you.